Chapitre 31. Conseil martial. La salle du conseil martial se situait au troisième étage du palais impérial. Une pièce carrée sous les toits, dans laquelle une grande table ronde avait été installée. Les fenêtres et les lucarnes offraient une vue à 360 degrés sur Paris, de la flèche du tipi à celle du sanctuaire et sur les derniers flocons de l'averse de neige qui blanchissaient les toits, les cheminées et les rebords des fenêtres. À 2 semaines du jour de la veillée du sanctuaire, Coriolis avait annoncé dans la rubrique météo de la feuille de chou des baisses de température spectaculaires. Un ascenseur montait jusqu'au dernier étage et s'ouvrait directement sur la salle du conseil martial. Dès que Génor en sortit, tous les hauts gradés de l'armée impériale, déjà assis autour de la table, se levèrent au garde-à-vous.
« Asseyez-vous, » fit le grand serf, « et perdez cette habitude de vous mettre debout devant moi. Ça finirait par me rendre jaloux. »
Le grand serf semblait d'excellente humeur. Il salua longuement les soldats assis autour de la table, les généraux Novak et Helios, les ombrageurs Orfeo et Chado, ses gardes du corps Idris et Django ainsi que Galien, invités comme conseillers.
« Messieurs, commença-t-il, avant d'ouvrir ce conseil militaire, puis-je me permettre de vous poser une question ?»
Tous opinèrent de la tête.
« Selon vous, avec quel argent a-t-on construit ce palais ?»
Tous se tournèrent vers Galien, le seul savant présent, mais même lui n'en savait rien.
« Avec la fortune d'un certain Antoine Crozat, » annonça Augénor, « qui se trouvait être le plus grand esclavagiste de son temps. Ce palais de l'Élysée fut ensuite la résidence des empereurs, puis des présidents de la République, et tout le monde s'est hâté d'oublier avec quel argent il avait été financé. Que cela nous serve de leçon. Il ne faut avoir aucun remords lorsqu'on poursuit un objectif noble. Regardez la cathédrale. »
Cette fois, tous tournèrent la tête vers la flèche du sanctuaire.
Nous l'admirons, oubliant que seule la folie des hommes et la mort de milliers d'ouvriers ont permis de l'élever. Alors, souvenez-vous toujours, messieurs, notre objectif est noble. Entre vos mains, aujourd'hui, le sang coulera, mais demain, le monde vous admirera. »
Tous apprécièrent. Ce genre de compliment était rare, et plus encore venant du grand serf.
« Bien, » fit-il en posant sa canne sur la table ronde. « Ouvrons ce conseil de guerre. L'un d'entre vous a-t-il des nouvelles de nos fugitifs ?»
Les soldats se dévisagèrent, gênés, avant de laisser plus longtemps traîner le regard sur le général Novak. Son bandeau noir cachait difficilement l'orbite vide et rouge de son œil.
« Aucun, grand serf. Zizomis et ses complices demeurent introuvables. »
L'empereur continua de sourire, mais sa main se crispa sur le pommeau de sa canne.
« Vous les avez pourtant livrés sur un plateau. Mais passons. Ces 4 ou 5 fuyards ne représentent pas un bien grand danger. Je les connais assez pour savoir qu'ils tenteront à nouveau d'entrer dans ce palais. Il y a assez de fromage dans nos prisons pour les attirer.
D'ailleurs, » il fixa Galien, Orfeo et Chado,
« ces prisonniers vous ont-ils enfin livré quelques confidences ?»
Cette fois, les regards s'attardèrent sur Galien. Le médecin baissa les yeux vers les notes posées devant lui.
« Non, hélas. Nous essayons pourtant sur eux toutes les formes de torture connues, le chevalet, la gégène, le judas, la patte de chat. »
Orfeo et Chado, apparemment peu concernés par le « nous », observaient par la fenêtre l'ombre d'un grand platane, le plus haut arbre du jardin du palais.
« Tu sais pourtant ce que je cherche, » fit Augénor soudain plus cassant. « Bien, bien sûr, cette boussole, enfin, cette rose des vents. Mais j'ai eu beau insister auprès de chacun des savants, Liu, Braza, Osman, ils prétendent n'en avoir jamais entendu parler.
Ils mentent. »
Le diamant de la canne d'Augénor s'abattit sur la table ronde.
« Je sais !»
s'empressa d'ajouter Galien. Des gouttes de sueur perlaient sur toute la surface de son crâne rasé.
Parfois, quand on les prive de repas pendant plusieurs jours, ou quand on les réveille tous les quarts d'heure pour les empêcher de dormir, ils finissent par parler dans leur délire. Et certains mots reviennent. Il baissa la tête pour lire ses notes. Utopie, moulin sublime, pandorite, autant de termes dont, je te l'avoue, grand sœur, j'ignore tout. À vrai dire, pour leur soutirer ces aveux, il serait plus simple que j'en sache davantage sur ces moulins sublimes et cette pandorite. Le regard glacial d'Augénor dissuada immédiatement le médecin de poursuivre dans cette voie. La transpiration inondait maintenant son front. Je suis certain qu'il existe encore de puissantes techniques de torture que nous n'avons pas essayées, n'est-ce pas ? Galien chercha un soutien en direction d'Orfeo et Tchado, qui se contentèrent de lui répondre par un sourire inexpressif. « J'en suis également certain, » fit Augénor. « Je fais confiance à ta fertile imagination. » L'empereur continua par une longue série de questions de s'assurer de la sécurité de l'Empire, multipliant les recommandations, rappelant ses convictions, vérifiant qu'elles étaient comprises et appliquées. Il s'accorda enfin un silence et fixa chaque militaire autour de la table. « Messieurs, j'en ai terminé. À votre tour, avez-vous des questions ?» Le plus souvent, il n'y en avait aucune, mais Novak leva pourtant une main déterminée. « Oui ?»
Dans la feuille de chou, depuis quelques mois, Isalis, enfin, je veux dire, la consul à l'instruction du peuple et aux distractions, raconte cette histoire d'exécution du capitaine Blanc.
Et
même s'ils étaient cagoulés, je suis persuadé qu'ils faisaient partie des rebelles qui ont libéré Zizomis, place de l'Aiguille.
Pour justifier sa conviction, il se boucha le nez.
Et, répéta Augénor. Le général souleva son bandeau pour montrer les éclats de verre dans son orbite vide.
Et c'est donc qu'il était bien vivant, à moins que ce ne soit le fantôme du capitaine Blanc qui m'ait collé un coup de beau dans l'œil.
Personne ne sourit autour de la table ronde. Orfeo et Tchado regardaient toujours les ombres squelettiques des arbres du jardin. Augénor s'adressa à Novak comme on parle à un enfant de 12 ans.
« C'est pourtant simple, général. » Tout régime, disons, solide, stable, osons même dire autoritaire, ne peut reposer que sur 2 piliers. Faire peur et distraire. La feuille de chou ne sert qu'à cela. Distraire les lecteurs, leur faire oublier la réalité. Peu importe que le capitaine Blanc soit mort ou pas, s'il ressuscite dans un coin de Paris, on le tuera une seconde fois. Les compagnons adorent ce genre de feuilleton. Tout comme ils se passionneront pour ce tournoi des corporations, et tout comme ils oublieront leurs soucis et leur misérable vie lors de la veillée du sanctuaire. Nous leur offrirons le plus beau spectacle qu'ils aient jamais vu. Il fixa à nouveau la flèche blanche de la cathédrale.
Chacun fasse son travail.
Généraux, faites régner l'ordre et la terreur. Isalis se charge de raconter de belles histoires et Vanil de remplir les caisses de l'Empire. Elles n'ont jamais été aussi pleines. Un trésor de plus de 2 millions de lunes, selon notre argentière. Nous pouvons bien en dépenser quelques-unes pour des colombes, des bougies et des lasers le jour de la veillée.
Novak confirma en hochant bêtement la tête, puis, soucieux de se racheter, lança, telle une boutade,
« En parlant de Vanil, a-t-on des nouvelles de Jean d'Arc ?»«
Le généralissime, » répondit très sérieusement l'empereur, continue chaque jour d'étendre l'Empire et de porter plus loin le drapeau vert du Grand Cerf.
Novak n'en rajouta pas. La séparation des 2 consuls, Vanil et Jean d'Arc, depuis plusieurs mois, était devenue un motif de plaisanterie parmi les soldats. Vanil avait été affublé du surnom de Pénélope, et les paris circulaient parmi les soldats à qui parviendrait à séduire l'élégante et très riche grande argentière. Novak faisait figure de favori.
J'ai une autre question, fit Galien avant que tous se levèrent. Des rumeurs courent au sein du palais. Certains prétendent que les résistants nous échappent parce qu'ils disposent d'un espion dans ces murs.
Et toi, lui répondit Augénor, qu'en penses-tu?
Eh bien,
balbutia le médecin, que c'est une possibilité.
Une certitude, corrigea l'empereur. Comment as-tu pu croire que je l'ignorais ?
Il fixa le médecin, puis tous les militaires autour de la table.
Et t'imagines-tu vraiment que j'ignore qui il est ?
L'ascenseur s'ouvrit d'un coup derrière lui, signe que le conseil était terminé.
Messieurs, conclut pourtant Eugénor, je compte sur vous pour que tout soit réglé avant la veillée du sanctuaire.
Faites parler ces prisonniers. Trouvez ces derniers résistants. Ce petit jeu est amusant un moment, mais il est temps de passer à d'autres distractions.
Les soldats s'étaient levés, mais tous restèrent figés devant la fenêtre. L'empereur dut s'avancer à nouveau dans la salle du conseil martial pour découvrir ce qu'il fixait, les yeux écarquillés. Un drapeau flottait au sommet de la flèche du sanctuaire. Un drapeau inconnu, constitué de plusieurs bandes, rouge, verte, jaune, bleu.
Regardez ! Cria Helios.
Un drapeau identique avait été accroché au sommet du tipi.
Qu'est-ce que ça signifie ?
Grogna Novak.
Qui a pu ?
Le linceul des teinturiers, murmura Galien. Voilà ce que signifie ce drapeau arc-en-ciel. Un drapeau en mémoire des 15 compagnons que l'armée impériale a noyés, fabriqué avec les draps colorés que le capitaine Blanc a emportés. Un étendard pour faire de toutes les victimes de l'Empire des martyrs.
Regardez, derrière nous !
S'exclama cette fois Django. Un nouveau drapeau arc-en-ciel flottait dans le ciel blanc de Paris, planté cette fois au sommet de la tour noire. Eugénor, qui n'avait toujours pas réagi, donna des ordres vifs et précis.
« Généraux, prenez avec vous autant de soldats que vous le pouvez. Ils sont là-haut. Ils ne doivent pas en redescendre vivants.